Voilà, bonjour. J'aimerais qu'on lise un passage dans Exode 17. Et je vais prier d'abord. Seigneur, merci pour ce matin, merci pour ta parole qui a déjà été donnée. Seigneur, nous voulons recevoir ces choses dans notre cœur et être transformés par ces choses. Seigneur, merci parce que tu es notre Dieu et que tu veux nous parler tous les jours et aujourd'hui aussi. Et Seigneur, nous voulons nous ouvrir à toi, ouvrir nos cœurs, notre esprit et être prêts à agir. En ton nom et à ta parole. Amen. Je vais lire jusqu'au verset 16, Exode 17, de 1 à 16. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Réphidim où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent « Donnez-nous de l'eau à boire ». Moïse leur répondit « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ?» Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse « Passe devant le peuple. » Et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve, et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ? » Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combats Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom « L'Éternel ma bannière ». Il dit, « Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. » Contrairement à Moïse, qui avait été particulièrement gardé par Dieu, n'est-ce pas, dès sa naissance, pour devenir donc le conducteur d'Israël, Josué, lui, est passé par un apprentissage assez long, aux côtés de Moïse. Josué faisait partie des hommes courageux qui furent envoyés pour espionner le pays de Canaan. C'est aussi lui qui était un homme obéissant, rempli de foi, n'est-ce pas ? Puisqu'avec Caleb, c'est le seul qui a dit « On peut réussir, si Dieu est avec nous, à rentrer dans ce pays et à vaincre toutes ces peuplades qui sont là et qui nous font peur. » C'était aussi un homme de confiance, hein, puisqu'on lit qu'il était dans l'attente de Moïse tout le temps. C'était une sorte d'aide de camp de Moïse, c'était l'homme de confiance de Moïse. Et on le voit là, c'était aussi un combattant. C'était un combattant, puisque Moïse lui demande de choisir des hommes et d'aller sur le front pour combattre Amalek. Et on le voit, donc c'est aidé de Hur et Aaron que Moïse donc monte sur la montagne pendant que Josué est sur le front. Moïse prie et la victoire est remportée. Donc Josué était aussi d'une certaine manière un héros victorieux des ennemis. Et donc à la suite de ce combat en plus, n'est-ce pas, Dieu fait notifier par écrit les hauts faits de Josué pour la postérité, c'est-à-dire pour nous, afin que nous puissions en tirer des enseignements pour nos propres vies et pour notre édification spirituelle. L'apôtre Paul, justement, fait allusion à ces événements dans l'Épître aux Corinthiens. Et si vous voulez bien tourner dans 1 Corinthiens, chapitre 10... Où donc, il parle justement de ce qui a été notifié, c'est-à-dire, et qui nous est laissé en exemple. 1 Corinthiens 10, je vais commencer à lire à partir du premier verset. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous étaient baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. » Paul nous partage le sens spirituel des événements que nous venons de lire. Et donc, et qui se sont déroulés dans ce désert. N'est-ce pas l'événement qu'on a lu, ce moment où Moïse frappe le rocher, ça se situe juste après la sortie d'Égypte. Hein, c'est Dieu a fait des miracles absolument extraordinaires. Si on se replace dans l'ambiance de l'époque, c'est 400 ans d'esclavage. Enfin, ils ont habité là-bas. Et là, il y avait la souffrance. Et Dieu a entendu son peuple et il est venu. Il a fait des miracles absolument remarquables qui ne pouvaient pas laisser de doute sur ses intentions, sur qui il était et sur ce qu'il voulait pour son peuple. Et donc, Paul partage, n'est-ce pas, le sens spirituel de ces événements. Et si on reprend dans Exode, on va faire un peu des allers-retours, au verset 5, n'est-ce pas ? Non, c'est pas le verset 5, c'est le verset 6. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Au verset 5, donc, et dans Corinthiens, ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Et donc, on peut dire que l'eau qui coule dans le désert à l'époque de Moïse, eh bien, c'est l'eau de la vie éternelle qui coule de la croix. N'est-ce pas ? Christ a été frappé sur la croix. Et le résultat, c'est la vie éternelle. Il a été frappé pour nos péchés. Et donc le peuple d'Israël, sans le savoir, vivait des moments qui avaient une symbolique extrêmement forte. Dieu savait ce qui était en train de se passer. Et c'était déjà finalement Christ qui était en train d'être crucifié. C'est compliqué parfois de comprendre ça, mais on sait qu'il est l'agneau de Dieu qui a été sacrifié dès la fondation du monde. Donc les choses ne sont pas juste figées dans le temps à un moment, mais elles ont existé de toute éternité. Et c'est ce moment spécial que vivent les enfants d'Israël. Ce rocher, c'est pas un vulgaire rocher, c'est Christ. N'est-ce pas ? C'est ce que dit Paul. Et donc le baptême dans la nuée et la mer représente aussi notre identification à Christ dans sa mort et dans sa résurrection. N'est-ce pas ? L'entrée dans la mer, la sortie, représente, c'est une figure du baptême. Et la manne, eh bien, c'est un aliment qui symbolise notre participation à la nature de Christ au travers du Saint-Esprit. Et donc l'eau est le don de la vie éternelle que nous recevons par la rédemption en Jésus. Mais il dit aussi, au verset 5 dans 1 Corinthiens 10, « Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. » Et donc, c'est ça qui est curieux, n'est-ce pas ? C'est que d'un côté, on a toute cette identification qui est accordée au peuple, l'identification qui représente finalement la rédemption du peuple. Mais malgré ça, malgré qu'ils ont tous été au bénéfice de ces symboles dont on vient de parler, eh bien, on s'aperçoit qu'ils n'étaient pas agréables à Dieu. C'est tragique. C'est tragique. Alors, on reprend dans Exode, au verset 7, il dit « Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» N'est-ce pas ? Et on apprend que c'est ça qui a déplu à Dieu. C'est leur contestation, leur doute au sujet de la réalité de sa présence. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous connaissez bien l'histoire des 10 plaies, n'est-ce pas ? C'est des choses qu'on fait beaucoup à l'école du dimanche. Mais c'est une présence absolument incontestable et puissante de Dieu dans le cours de la vie de son peuple, n'est-ce pas ? C'est une délivrance absolument remarquable. Mais il y a quelque chose qui vient et qui fait que il y a une question qui se pose au milieu du peuple. L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ? Une incrédulité qui sonne comme une insulte, réellement. Et Dieu n'a pas apprécié cela. Est-ce que nous faisons partie, nous, à titre personnel, de ceux qui ont été au bénéfice de l'action de Dieu et qui aujourd'hui doutent de sa capacité à s'occuper de nous et à nous faire rentrer pleinement dans la vie qu'il a prévue pour nous. Et c'est là que vient, au verset 8, un événement comme un cheveu sur la soupe. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Il y a cette histoire, ce rocher, l'eau coule, et tout d'un coup débarque Amalek. Qu'est-ce que ça vient faire là? Au moment où Israël est libéré par Dieu, au moment où Israël s'apprête à entrer dans le pays promis, après des siècles d'esclavage, Amalek arrive. Or, Amalek est l'ennemi juré de Dieu. Et selon Dieu, il n'y aura jamais de traité de paix signé entre Amalek et le peuple de Dieu. Cela concerne Israël à l'époque. Mais ça concerne aussi les membres de l'Église de Christ. N'est-ce pas? Ce qui s'est passé alors, ça se passe aujourd'hui. Ce qui s'est passé aujourd'hui, s'est passé à l'époque. N'est-ce pas? On est dans ce... Et c'est pour ça que Paul en parle comme si c'était une chose tellement importante. Dans le verset 14... L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. En fait, ça ne ressemble pas à Dieu, n'est-ce pas? D'être aussi intraitable, d'être aussi dur d'une certaine manière. Je ne sais pas s'il y a d'autres exemples dans la Bible où Dieu montre de la haine contre un peuple avec une telle insistance et avec... aucune échappatoire possible, aucune possibilité de changer ou de se repentir. Mais ces choses ont été écrites pour nous, comme un exemple. Et j'aimerais qu'on essaie de comprendre un peu mieux ce matin qui est Amalek et pourquoi ce peuple qui est un danger pour Israël à l'époque, l'est aussi pour nous aujourd'hui. Je l'ai dit, Amalek arrive au moment qui est d'une certaine manière le moment le plus béni pour les enfants d'Israël. Ils viennent de se désaltérer au rocher. Et donc Amalek arrive. Amalek, en fait, c'est une image de la chair qui cherche à tout prix à empêcher les enfants de Dieu de sortir du désert de leur vie pour entrer dans le pays promis. C'est pour ça qu'ils arrivent maintenant. Parce que ils ne veulent pas que les enfants de Dieu qui sont déjà au bénéfice de la rédemption, puissent entrer dans le pays que Dieu leur a promis. Ils veulent faire tout pour les en empêcher. Pour entrer dans la vie nouvelle, véritable. Et on sait, n'est-ce pas, qu'Israël a tourné 40 ans dans le désert après ça. Mais le but de Dieu, ce n'était pas qu'Israël aille dans le désert. Le but de Dieu, c'était qu'il passe de l'Égypte dans le pays promis. Pas dans le désert. C'était le pays, normalement, où coule le lait et le miel qu'il devait pénétrer. Et sous l'influence de Satan, n'est-ce pas, la chair fera tout pour nous empêcher, pour empêcher les enfants de Dieu d'entrer dans le repos que Dieu nous promet. La chair va chercher à maintenir sa domination sur notre corps, sur notre âme, sur nos émotions en permanence. Et on le lit, n'est-ce pas, dans Galates 5, verset 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Trop de chrétiens se battent quotidiennement pour essayer d'empêcher, pour essayer de remporter la victoire sur la chair, sur le péché. Mais la parole nous dit que ça, c'est un combat qui est perdu d'avance. La chair ne peut pas combattre la chair. C'est un combat qui a été remporté par Christ. Et nous, nous sommes appelés à marcher dans la réalité de cette victoire. Christ a combattu, Christ a remporté la victoire. Et nous, nous sommes appelés à marcher dans cette victoire, à la saisir par la foi et à marcher dans cette victoire. Au verset 9 de Exode 17, nous lisons « Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse et Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait les mains, sa main vers le ciel, vers sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. En fait, on voit que Josué, même s'il était cet homme rempli de qualités que je vous ai énoncées en tout début, ce n'est pas à cause de ses qualités qu'il a remporté la victoire contre Amalek. Il fallait que Moïse ait les bras levés, la verge de Dieu pointée vers le ciel. Et de la même manière, nous ne pourrons jamais remporter aucune seule victoire contre la chair si nous combattons par nos propres forces. Je ne sais pas où vous en êtes de votre combat contre le péché. Mais la chair ne pourra jamais accéder à la sainteté. C'est pour ça que Dieu est aussi dur contre Amalek. Parce qu'il représente cette chair. Et de façon symbolique à l'époque, pour nous aujourd'hui, c'est symbolique. C'est pour ça que Dieu a dit que jamais il ne ferait de, il n'y aura jamais de paix avec Amalek. Parce que Dieu sait qu'on ne peut pas pactiser avec la chair. La chair ne pourra jamais accéder à la sainteté. Et avec les années, peut-être qu'on s'habitue, n'est-ce pas, à vivre comme ça. Mais si on vit de cette manière-là, alors, eh bien, ça veut dire que nous vivons dans le désert. Ça veut dire que nous sommes en train de tourner en rond, comme le peuple d'Israël a tourné en rond dans le désert. Et ça veut dire qu'on s'est habitué au désert. On s'est habitué à vivre non pas du lait et du miel que Dieu nous veut nous donner, mais on s'est habitué à vivre de la manne. C'était pas prévu, n'est-ce pas, qu'ils vivent de la manne pendant 40 ans. La manne n'est pas un mets de choix. C'est tous les jours la même chose. C'est rasoir, 40 ans, manger la même chose tous les jours, vous vous rendez compte? C'était pas ça qui était prévu. C'est pas ça que Dieu veut pour nos vies. C'est le lait et le miel du pays promis. Ça veut dire qu'on est en pénurie spirituelle. Et peut-être on s'est découragé. Et comme beaucoup de croyants, c'est incroyable le nombre de personnes qui passent leur vie à lutter contre leur chair et leur péché en essayant de garder juste la tête hors de l'eau pour ne pas couler. C'est pas ça la vie que Dieu nous donne. Ça peut même mener à la dépression. Jésus dit, je suis venu, écoutez bien, et croyez-le, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, avec un grand V, et qu'elle l'ait dans le désert, avec en mangeant des miettes, non, qu'elle l'ait en abondance. Ce que Dieu veut nous donner, c'est un banquet spirituel. C'est ça que nous devrions expérimenter. Est-ce que c'est ça que nous vivons? Est-ce que nous vivons dans l'abondance du Saint-Esprit ou est-ce que nous vivons de la manne du désert? Tous les jours la même chose. Satan essaye de nous piéger. Et souvent, il le fait avec des détails. Il va vous dire, essaye de ne pas accomplir les désirs de la chair, et alors tu pourras marcher par l'esprit. Je ne suis même pas sûr qu'on réalise où est le piège. Essaye de ne pas accomplir les désirs de la chair, et alors tu verras, tu vas pouvoir marcher selon l'esprit. C'est inversé. C'est pas ça que dit la parole. La parole dit l'inverse, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et je parie, vous pouvez me mettre dedans, que tous on s'est fait piéger à ça. Essaye de lutter contre les désirs de la chair et tu vas voir, finalement tu arriveras à marcher par l'esprit. Eh bien, c'est pas ça que Dieu a dit. C'est pas ça que Dieu a dit. Et ça n'est pas ça que Dieu a dit, je le répète. Parce que là, ça apparaît comme une récompense, n'est-ce pas? Fais ça bien. Hein, et une fois que tu auras bien fait ça, alors tu vas voir, tu seras béni. Et en agissant comme ça, qu'est-ce qui se passe? On se centre sur nous-mêmes. On se préoccupe de nous-mêmes. Le point de focalisation, c'est moi. Et en faisant ça, on oublie que c'est Dieu qui devrait être focalisé. Et en faisant ça, on est en train de créer une idole. Et l'idole, c'est nous. Une idole, c'est ceux qui nous préoccupent tout le temps, n'est-ce pas? C'est ça, une idole. C'est quelque chose à quoi on pense sans arrêt. Galates 5:16, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que nous fassiez point ce que vous voudriez. Dieu veut que nous marchions par la foi en lui. Le juste vivra par sa foi. Ou la foi, ça dépend des... C'est trois fois que vous avez ça dans la parole. Le juste vivra par la foi. La foi en qui? La mienne? Non. Je ne peux pas. Si je marche par ma foi, je suis perdu. Si je marche par la foi de Dieu en moi, alors je suis vainqueur. Qui est-ce qui est fidèle? Moi? Moi, je ne suis pas fidèle. Seul Dieu est fidèle. Je marche par la fidélité de Dieu. Parce que cette fidélité ne change jamais. Cette fidélité nous amène, lorsque nous marchons par la foi, à la victoire. Si nous marchons en totale dépendance à Christ, qui demeure en nous par son esprit, nous serons aussi au bénéfice de sa victoire sur la puissance de Satan et sur le péché. Josué a obtenu la victoire non pas parce qu'il était fort, non pas à cause de tous les efforts qu'il a fait, et il en a fait des efforts, mais il les a fait non pas en vain, il les a fait parce que Moïse, n'est-ce pas, qui représentait Dieu, avait les mains levées. Et c'est ça qui a acquis la victoire à Josué. Et nous pouvons nous approprier cette victoire par la foi acquise par Christ, qui lui aussi a été élevé comme les mains de Moïse. Il a été élevé à la croix. Qui est Amalek? Amalek, c'est en fait un descendant d'Ésaü par Éliphaz. On va revenir juste un peu à l'histoire d'Ésaü. Genèse 25, versets 29 à 34. Je suis en train de cuire. Hein. Comme Jacob, vous connaissez aussi très bien cette histoire, n'est-ce pas? Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Dieu avait béni Abraham avec la promesse que sa postérité serait nombreuse, comme les étoiles du ciel, et que toutes les familles de la terre seraient bénies en lui, et que des nations et des rois sortiraient de sa postérité. Et bien sûr, le roi suprême, le Seigneur Jésus, à la tête d'une nation immense, sainte, composée d'hommes et de femmes vivant de la bouche de Dieu. Ça, c'était le plan de Dieu pour Abraham. Et Ésaü aurait dû être fier d'être inclus dans ce plan, n'est-ce pas? Il aurait dû être fier de ce droit d'aînesse qui était le sien et qu'il connaissait. Mais Ésaü était un homme fort, un homme capable, un homme dégourdi qui, finalement, n'avait besoin de personne. Et vous savez, ces hommes qui... Je me rappelle d'une émission que j'avais entendue à la radio d'un gars qui était parti au cercle polaire, tout seul, en solitaire, un docteur, je ne sais plus qui. Et il racontait au journaliste qui lui disait, mais
vous n'étiez pas inquiet parce que tout seul, s'il vous arrive quelque chose, il n'y a personne à proximité pour vous aider. Et il dit, ah, vous savez, quand j'étais enfant, j'ai été élevé à la dure. Et avec mon père, j'ai tout appris. Voilà, j'ai fabriqué des abris dans la forêt. Et je sais me débrouiller dans toutes les situations. J'ai appris à me débrouiller. N'est-ce pas, quoi qu'il arrive, je trouverai toujours une solution pour m'en sortir. Ça m'a fait penser à Ésaü. On a l'impression qu'Ésaü est ce type d'homme, n'est-ce pas ? Ou qui n'a peur de rien, qui est un homme courageux, voilà, et il a besoin de personne. Il a besoin de personne, et droit d'aînesse ou pas, finalement, qu'est-ce que ça peut me faire ? Moi, je m'en sortirai dans la vie. Et c'est comme ça, n'est-ce pas ? Souvent, les hommes talentueux, les hommes qui savent faire les choses sont indépendants et ils ont besoin de personne, même pas de Dieu. Et Ésaü était de cet ordre-là. Il était préoccupé par ses affaires, mais il ne s'inquiétait pas de ses obligations, de ses prérogatives d'aîné et vis-à-vis de son père, eh bien, voilà, ça ne l'inquiétait pas plus que ça. Et c'est pour ça qu'on lit dans Malachie 1, verset 3, Dieu qui parle et qui dit « J'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. » Si Édom dit, donc on l'a lu, c'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. Vous voyez, c'est ça le caractère d'Ésaü. Si nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. Ainsi parle l'Éternel des armées. Qu'ils bâtissent, je renverserai. Et on les appellera le pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vous voyez comment se forme cette similitude entre la chair et Amalek, qui est issu d'Ésaü, contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Josué, était fort, mais il n'était pas comme Ésaü. Parce qu'il était soumis à Dieu, il était soumis à Moïse. Pourquoi Dieu a-t-il tant de haine pour Ésaü ? Pourquoi Dieu veut-il exterminer Amalek ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de rédemption possible pour Édom ? Parce que Dieu ne peut rien faire avec l'esprit d'Ésaü. Parce qu'il a méprisé son droit d'aînesse, parce qu'il est un homme fort et qu'il considère qu'il n'a besoin de personne. Jésus dit, n'est-ce pas, qu'il est venu pour ceux qui ont besoin de quelqu'un, ceux qui ont besoin d'un médecin. Il dit, je ne suis pas venu pour les bien portants. Je ne suis pas venu pour ceux qui pensent qu'ils ont tout compris et qui savent où ils en sont. Mais je suis venu pour ceux qui sont arrivés au bout d'eux-mêmes, ceux qui sont désespérés. Dans Romains 8, verset 6, nous disons, l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Dieu ne fera jamais, jamais, jamais de compromis avec la chair. Et si nous sommes charnels, si nous vivons en tant que chrétiens de façon charnelle, eh bien nous sommes désagréables aux yeux de Dieu. Il ne veut pas que nous-mêmes fassions des compromis avec la chair. Si nous sommes fatigués de lutter contre la puissance de la chair, alors peut-être que nous sommes prêts à marcher selon l'Esprit. Il nous faut faire un choix dans nos affections. Est-ce que nous avons de la haine pour notre péché, comme Dieu a de la haine pour Ésaü ? Ou alors est-ce que nous aimons notre péché plus que toute autre chose, plus que la délivrance que Dieu veut nous accorder ? Ça, ce sont des véritables questions. Est-ce que nous aimons notre péché ? La réalité, c'est qu'on ne se débarrasse pas de ce qu'on aime. N'est-ce pas, quand vous rangez votre maison après des décennies d'accumulation, vous êtes là, « Ah non, ça, je ne peux pas m'en débarrasser. » Mais c'est ça. Lorsqu'on fait le ménage à l'intérieur, il arrive un moment où on doit faire un choix. Et si on dit « Ah non, ça, je ne peux pas m'en débarrasser. » Je vous assure que vous devenez vraiment désagréable aux yeux de Dieu. Vraiment. Dans Jean, vous connaissez Jean 3,16, n'est-ce pas ? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et tout de suite après, verset 18, celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, c'est que Dieu étant venu libérer son peuple de la tyrannie du Pharaon, les hommes ont préféré les ténèbres. Les hommes ont préféré murmurer contre Dieu. Ils ont préféré les lumières, les ténèbres à la lumière. Ils ont préféré aller dans le désert plutôt que d'aller dans le pays que Dieu leur proposait, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Bien-aimés, si nous sommes dans le désert, nous ne sommes pas dans le pays promis. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Je vais terminer juste en vous relisant l'avertissement de certaine manière que Paul donne concernant les événements qui se sont déroulés dans le désert pour le peuple d'Israël, donc dans 1 Corinthiens 10, verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tombe à 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Je propose qu'on se recueille 5 minutes et que On puisse prier chacun pour nous-mêmes ou en public, comme on veut. Et après, Joël, je te laisse terminer. Merci pour la liberté que tu m'as acquise à la croix. Merci Seigneur, parce que avec la croix, la chair, avec ses passions, ont été crucifiées. Et Seigneur, je peux aujourd'hui marcher en côté de Dieu, non plus en étant soumis à la puissance de la chair, mais en me soumettant à la puissance de cet esprit. Pour que, de façon naturelle, je puisse vivre selon, Seigneur, ta vie et ton corps. Et Seigneur, je prie pour que jour après jour, Seigneur, ta parole puisse être ma vie et que je puisse vivre de cela simplement. Seigneur, merci pour ton nom. Amen.
Qui sépare ce qui est humain de ce qui est spirituel. Merci que tu continues ton travail dans mon cœur et que je puisse totalement me confier dans l'œuvre de ton Fils Jésus-Christ. Parce qu'en lui, nous avons tout pleinement. Nous te remercions que tu veux briser ma volonté propre, ma propre justice et me donner l'humilité. Parce que tu résistes aux orgueilleux, tu fais grâce aux hommes. Merci que tu es fidèle, que tu n'abandonnes aucun de tes enfants et que nous pouvons totalement te faire confiance au nom de Jésus.
Seigneur, je te remercie de l'œuvre que tu as faite en moi et je te demande de continuer à la faire. Seigneur, je veux que tu sois le seul maître en moi. Seigneur, et que ton esprit puisse avoir une pleine liberté, car je t'ai donné ma vie, elle ne m'appartient plus. Elle est à toi, Seigneur, et que je puisse marcher selon ton esprit uniquement, et tu accompliras tout le reste selon tes désirs. Seigneur, j'ai entière foi en toi.
Oui, Seigneur, je veux te remercier pour ces exemples que on a lus ce matin, pour l'exemple de ces hommes, de Josué, Seigneur, et tu veux nous aider à marcher selon l'Esprit, pour que nous puissions faire mourir les choses de la chair qui sont encore en nous, Seigneur. Tu veux nous aider à haïr le péché comme toi tu as haï l'attitude et l'esprit qu'il y avait dans Ésaïe et dans Amalek, Seigneur, et tu veux nous aider à ne jamais faire de compromis ou de pacte avec ces choses, Seigneur, et que ce soit toi qui puisses être le roi de nos vies. On veut te remercier parce que tu nous as acquis la victoire. On veut te remercier parce que si nous gardons, comme cette image de Moïse, les bras levés vers toi, nous sommes victorieux. Et tu veux nous guider durant toute cette semaine, étendre ta main sur chacun de nous et être avec chacun de nous. On veut te louer et te remercier pour ta bonté et pour la victoire que tu nous as acquise. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un a encore un chant ?